Bonjour et bienvenue dans La Lorgnette. Cette semaine, focus sur les aidants et aidantes. On en connaît tous et toutes. Vous en êtes peut-être, vous, chers auditeurs et auditrices, un ou une vous-même. Et peut-être sans le savoir d'ailleurs, car selon un sondage de 2016, 60% des aidants ignorent qu'ils ou elles le sont. Et 90% ne se considèrent pas comme tels. À la perte d'autonomie des proches, à laquelle ces aidants tentent de pallier, il faut donc aussi ajouter un manque de considération et de moyens à cette population pourtant loin d'être négligeable. Si l'on s'en réfère à la définition de la Charte européenne de l'aidant familial, l'aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour des activités de la vie quotidienne. Alors, être aidant, c'est quoi, c'est qui, et surtout, qui aide les aidants ? Et avec moi donc autour de cette table nombreuse aujourd'hui, il y a du monde en studio pour parler donc du sujet des aidants. J'ai Christelle Moore. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre fonction?
Alors,
et la structure.
Moi, je suis ergothérapeute. Ma mission dans l'équipe mobile Alzheimer, c'est d'intervenir auprès des patients, donc les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, type Alzheimer, ainsi que les aidants. Là, auprès des aidants, on va surtout les accompagner sur mettre en place soit d'autres professionnels, soit des moyens pour qu'ils puissent tenir sur le long terme. De façon, parce qu'on sait très bien que c'est quand même une activité très fatigante pour eux. Outre le quotidien, on va dire l'intendance, tout ça.
On aura l'occasion d'y revenir, évidemment.
Voilà, c'est surtout accompagner la personne malade dans le quotidien, à pallier les difficultés. Et moi, ma grosse mission, c'est déjà de leur dire que c'est fatigant, parce que très souvent, comme vous disiez, ils n'ont pas conscience de leur mission et de l'épuisement que ça peut entraîner. Et c'est surtout faire du relais auprès d'autres collègues, d'autres équipes qui me permettent de faire tenir ce domicile possible.
Avec vous de la même structure, donc, Magali Péchard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez présenter donc votre fonction au sein de l'ADMR et de l'équipe mobile Alzheimer ?
Alors moi, ma fonction est d'encadrer l'équipe, de gérer l'ensemble des missions qui lui sont affectées, puisque c'est un service de santé qui est financé par l'ARS et qui donc répond à un certain nombre de cadres et de directives particulières. Donc lorsque nous sommes contactés par les personnes qui demandent notre intervention, c'est aussi de vérifier qu'elles sont bien dans le champ des missions imparties au service, de faire avec l'ergothérapeute, donc Christelle, que vous venez d'entendre, la première visite sur place au sein des domiciles et d'évaluer avec l'équipe la faisabilité et la mise en place des séances à venir dans le cadre des missions qui sont régies sur notre intervention.
Je continue avec Sandrine Lelièvre, vous êtes psychologue au CIAS. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus aussi votre fonction et notamment donc avec ces personnes en perte d'autonomie et les aidants qui les accompagnent ?
Oui, bonjour. Donc effectivement, je travaille sur la plateforme d'accompagnement et de répit, donc qui dépend du CIAS du Blésois. Cette plateforme d'accompagnement et de répit fait partie du pôle aide aux aidants, donc qui regroupe à la fois cette plateforme et un accueil de jour où on peut accueillir des personnes ayant des pathologies neurodégénératives de type Alzheimer. Donc moi, pour le côté plateforme d'accompagnement et de répit, effectivement, j'accompagne tous les aidants de proches ayant plus de 60 ans et ayant soit une pathologie neurodégénérative, mais pas que. Elle peut être seulement entre guillemets dépendante ou ayant une pathologie grave, on va dire.
Pour terminer autour de cette table, Yann Bourseguin. Bonjour Yann.
Bonjour.
Vous êtes vice-président donc du CIAS et j'imagine en charge de ces questions d'autonomie.
Oui, en charge de ces questions d'autonomie, mais qui ça s'inscrit dans une approche plus globale du CIAS, puisque les aidants, les aidés. C'est un couple, aidant aider. On a évidemment une action via la plateforme de répit, via la maison d'accueil de jour. Mais pour que tout cela tienne, on a aussi un certain nombre d'autres services qui sont là pour étayer et maintenir une chose importante, maintenir les gens à domicile parce que c'est leur demande. C'est leur demande.
On reviendra aussi sur ces questions.
On étaye via les livraisons de repas à domicile, les services d'aide à domicile, le soin infirmier à domicile. Et tout ceci dans une approche globale du vieillissement sur notre territoire et de la prise en compte et de la reconnaissance, on en parlait, de la reconnaissance de ce statut d'aidant et de la reconnaissance de l'évolution aussi des besoins de la population. Le vieillissement de la population, c'est une excellente chose, on vit plus longtemps, mais il faut qu'on vive dans de bonnes conditions et l'évolution des couples aidants aidés n'est pas forcément symétrique, y compris quand c'est des couples, et que nous, on est là pour appuyer cette dimension-là, cette dynamique-là, dans la mesure du possible, jusqu'à ce que ce soit possible. Parfois, dans ce parcours, il faut aussi, on a aussi un rôle d'éclairage et d'accompagnement vers des prises en charge dans le cadre de structures.
Est-ce qu'on peut, je revenais sur la définition, alors, ce qui est celle de la charte européenne des aidants familiaux, est-ce qu'on peut affiner de manière pragmatique, concrète et puis peut-être collective, vu qu'on est nombreux autour dans ce studio, la définition, la notion d'aidant?
Oui, ce qui est important de noter déjà, c'est qu'un aidant, c'est une personne qui n'est pas professionnelle et qui peut vraiment intervenir de manière régulière et répétitive dans le quotidien de la personne. Donc elle peut être là 24 heures sur 24, mais être aussi là ponctuellement dans les différents gestes de la vie quotidienne. Donc ça peut aller à la gestion du repas, jusqu'aux démarches administratives, jusqu'à la préparation des médicaments. Voilà, donc l'aidant a vraiment une panel, on va dire, de missions qui, justement, occasionne son épuisement à plus ou moins long terme.
Est-ce qu'on peut rajouter des choses? Oui.
Oui, allez-y, alors, moi, je dirais que depuis un petit peu, c'est vrai qu'on rencontre les aidants qui ne s'identifient pas toujours comme aidants. Hein, et donc, ils ont, c'est mon rôle de le faire, c'est normal, c'est moi, qui se trouve sur cette trajectoire un petit peu obligée, sans y être évidemment préparé, avec tout ce que une pathologie ou un changement de condition, en tout cas d'état de santé, donne comme différence, comme habitude modifiée, et qui découvre au fur et à mesure des situations auxquelles ils n'étaient pas préparés. Et ça les déstabilise eux tout autant. Pour le couple aidant aidé, quand il s'agit de personnes âgées, bien souvent l'aidant a lui-même ses propres problèmes qu'il peut amener à négliger, à passer sous silence, à ne même pas dévoiler à son médecin. On vient d'en faire l'expérience il n'y a pas très longtemps en situation directe, et on est halluciné. On trouve des situations où la demande d'aide est aussi quelque chose de très compliqué. Et pour avoir participé à d'autres échanges, on entend quelquefois les aidants refuser ce terme et dire « moi, je suis plutôt l'aimant ». Dans le sens, moi d'abord, j'aime la personne avec qui je suis et je refuse ce terme-là. Non, pour moi, c'est pas quelque chose de... On parle toujours aussi du fardeau, etc. Et ils sont pas toujours prêts à entendre ce discours-là. Donc on a un petit peu différents aspects d'abord de la question.
J'ai rappelé des chiffres en introduction, mais je n'ai pas mentionné le principal. Il y a 9 millions, selon la plus récente étude de la DRES en février 2023, 9 millions d'aidants en France, ce qui représente un peu plus même, ce qui représente, selon ce chiffre-là, 14% de la population générale, mais le pourcentage augmente puisque toute la population générale en entier ne peut pas être considérée comme aidant. Donc j'imagine que le chiffre se rapproche peut-être des 20% d'aidants en France.
Je crois que c'est 15 millions et ça doit être à 15 millions même. Sur 5
dans la population française
est un aidant.
Clairement autour des 20%. Et donc les chiffres que je mentionnais, donc 60% ignorent qui ou elles le sont et 90% ne se considèrent pas comme tels. Donc ça rejoignait ce que vous disiez je ne suis pas aidant, je suis aimant. C'est mon rôle, c'est mon devoir presque. La question ne se pose pas, donc on ne se considère pas comme aidant. Est-ce que il y a un travail à faire pour, même avec tout l'amour qu'on porte à son conjoint, à la personne qu'on aide, qu'on accompagne, est-ce que il y a un travail, une réflexion d'ampleur à mener pour que l'aidant ait un statut juridique, pourquoi pas, une fonction bien définie au sein des métiers, dans le corps des métiers du care, comme on dit, du soin.
Oui, vraisemblablement que des statuts soient évolutifs, notamment on pense avec le prolongement de l'âge de la vie, où on a des changements aussi sociétaux qui s'amènent, puisqu'on va travailler un petit peu plus longtemps, et que globalement, sur les réflexions qu'on se faisait, on rencontre déjà des enfants qui sont encore en situation professionnelle, qui mènent quasiment leur temps de travail, et pour qui être aidant d'un parent plus âgé est pratiquement une deuxième journée de travail pour certains. Donc déjà entre 56 et 62 ans, on voit ce que ça peut donner. Donc on se dit que les personnes qui vont continuer à être en situation d'autant plus prolongée, on va pas leur alléger la charge. Et on va risquer, enfin je sais pas, moi j'ai pas de projection, mais on va risquer de se trouver confronté à des problèmes sociétaux un petit peu différents, puisque censément on pouvait être déchargé et retrouver du temps libre pour cette fonction d'aide, notamment pour les générations des enfants. Mmh. La question, que se passera-t-il dans la fatigue, la disponibilité et le besoin des personnes actuellement aidées ?
Christelle, vous vouliez compléter ?
Oui, je voulais juste faire une nuance en termes d'aidant, parce qu'on a toujours très souvent la représentation que ça va être le mari ou l'épouse qui est l'aidant. Alors effectivement, il y a de plus en plus d'enfants. Alors,
j'ai des statistiques, a priori, voilà. Selon une étude de 2016, alors elle a peut-être évolué, mais de d'hommes plus, je ne sais pas si c'est celle-là. Ouais. Donc c'est 54% des aidants sont les enfants des personnes aidées.
Et on a encore un peu la représentation où, pour le moment, c'est encore des enfants qui sont peut-être, qui vont toucher la retraite ou qui sont déjà à la retraite.
Et l'âge médian est de 64 ans.
Voilà, ouais. Mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'enfants ou de petits-enfants qui interviennent auprès de ce couple aidant aidé, qui ont eux-mêmes des enfants en bas âge. On est régulièrement confronté à ça, ceux qui vivent loin aussi. Oui, donc on a les aidants, ils vont avoir différents besoins selon la catégorie où
ils sont dans
leur vie.
Se trouvent, ouais.
Donc ça va être compliqué d'accompagner, ou en tout cas il va falloir réfléchir en termes d'approche ou d'accompagnement vraiment très diversifié.
Est-ce que vous êtes capables, les deux structures dans ce studio, de formaliser avec les personnes justement leur statut, leur rôle? J'imagine que ça fait partie des missions que vous avez avec eux, de mettre des mots sur leur mission, leurs besoins, leurs difficultés aussi, j'imagine. Elles sont nombreuses, on va les entendre dans le reportage que Clémentine a préparé plus tard.
Je dirais que c'est notre mission principale, ouais. Déjà qu'ils arrivent tout simplement à se reconnaître en tant qu'aidant, c'est déjà le premier gros travail.
Il y a du travail, on le voit avec cette statistique ouais. Importante.
Oui, qu'ils se reconnaissent déjà en tant qu'aidant. Et la seconde chose, ça va être de leur permettre de prendre du recul, en utilisant des services d'aide à domicile. Enfin, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place pour qu'ils retrouvent leur place d'époux, leur place de fille, leur place de fils, et que toutes ces actions puissent être relayées par des aidants, mais pour le coup professionnels.
Quelque chose à rajouter?
Oui, c'est très concrètement sur ça, parce qu'il faut parler concrètement. Bah, j'ai eu le cas, je dirige une association par ailleurs, d'une salariée qui, après chaque une de ses journées de travail, avait 3 heures ou 4 heures avec sa mère, qui en fait faisait l'aide à domicile de sa mère. Ce qui a commencé à poser des problématiques de surcharge mentale dans le travail. Et le chemin qu'on a pu mener était de qu'elle s'autorise à faire appel à une aide à domicile pour sa mère. Pour que cette charge mentale d'aller faire les courses, de faire la cuisine, de faire le ménage disparaisse et qu'elle puisse retrouver une activité normale et une vie à peu près normale et sereine. Parce que très concrètement, c'est ça qu'on ne dit pas dans les aidants aidés. On est dans une approche, on aide, Non, parfois c'est des heures et des heures chaque jour. Avec,
qui se cumulent donc à l'activité professionnelle, la vie familiale, d'enfants en bas âge.
Et d'une certaine manière, on crée une situation un peu tendue et où on arrive, où ce sont les aidants qui s'effondrent. Et notre rôle là-dessus, il est de prévenir justement cet effondrement-là en tenant compte de la réalité, mais de nommer la charge. Parce qu'il y a une forme de culpabilité, presque un peu de honte culturelle à dire, bah oui, d'aller voir ma mère ou mon père 3 heures tous les jours, plus tous les week-ends, ça m'épuise, ça fait disparaître toute une partie de ma vie.
Je m'efface au profit
voilà,
de cette liaison.
Je pense que ce n'est pas très bon. Donc, notre rôle, c'est aussi de dire, de nommer les choses, de commencer à poser le verbe là-dessus, sur, bah oui, vous êtes aidant, oui, ça vous prend du temps, mais peut-être que vous pourriez être aussi aidant et que, autrement, en vous appuyant sur d'autres services, on pourrait vous aider. On a reçu hier, en conseil d'administration du CIAS, une association qui est financée par les caisses de retraite Agir Carco, qui s'appelle VRF, Village Répit Familial, voilà, qui accueille des couples aidants aidés sur une logique vacances, mais avec une prise en charge sur place à la fois de loisirs, mais aussi médico-social. Et on va beaucoup s'appuyer sur ça parce que, bah oui, il y a quand même un sujet. Et je crois qu'on a vraiment. Tout sujet qui n'est pas nommé, qui n'est pas verbalisé, devient un problème. Voilà. Et donc notre rôle, c'est ça.
Oui, allez-y, Magali.
Je vais rebondir exactement. On a rencontré une situation sur le sud du département, puisqu'on a 2 équipes qui interviennent, qui couvrent le territoire. Mais exactement dans cette logique-là, où on peut parler d'atteinte de la dynamique familiale. C'est-à-dire que là, on a une fille qui s'occupe de sa maman. Alors, les moyens financiers font qu'aussi, malgré les aides financières des dossiers APA et autres, quelquefois, ça n'est pas suffisant. Il faut refinancer en plus. On peut pas se permettre de tout prendre. Qui intervient effectivement beaucoup en complément de ce qui est déjà en place et qui, là, ne prend plus de vacances avec sa famille, qui délaisse même ses enfants qui sont des grands adolescents et qui est en train de mettre en péril sa dynamique de couple. On sent très bien que là, elle est totalement consacrée à l'aide à sa maman, avec une emprise extrêmement importante, et que ça la met en jeu sur sa propre dynamique de vie personnelle, avec des conséquences vraiment larges, vraiment lourdes.
Comment gérer ça? Je m'adresse à vous, Sandrine, en tant que psychologue. C'est les personnes que vous recevez. Quel est le parcours justement donc du coup d'accompagnement et de verbaliser, comme disait Yann, de formaliser tout ce parcours d'aidant? Comment il se met en place? J'imagine qu'il est différent à chaque cas, mais est-ce qu'il y a quand même une trajectoire générale?
Effectivement, chaque situation est différente, mais on retrouve beaucoup question de ne déjà pas se reconnaître en tant qu'aidant. Après, travailler sur toute cette culpabilité, effectivement. Je suis épuisée, mais à la fois, j'ai du mal à passer le relais, alors que toutes les sphères de ma vie sont impactées par ce rôle d'aidant. Donc, effectivement, on les rencontre en individuel. Donc il y a Karine Deluverne, qui est l'infirmière coordinatrice, qui réalise le premier entretien, qui informe déjà sur toutes les structures qui peut accompagner l'aidant et qui peut orienter vers un soutien psychologique avec moi. Et là, effectivement, on va travailler les différentes sphères de la vie affective de la personne et voir ce que l'on peut lui proposer. On a également mis en place un café des aidants, qui est donc labellisé par l'Association française des aidants. Et donc c'est un groupe d'aidants qui se réunit une fois par mois, où on va aborder différentes thématiques et les aidants vont pouvoir s'apporter mutuellement des conseils, exprimer leurs ressentis. Et ça, voilà, c'est vraiment pour eux une richesse, un grand plus et une aide à pouvoir se reconnaître en tant qu'aidant à travers aussi le regard d'un autre aidant.
On y reviendra dans le reportage de Clémentine qu'on va diffuser dans quelques minutes. En attendant, je vous propose une petite pause musicale. On parle des aidants, donc une petite chanson qui s'appelle « À l'aide » me semblait pertinente. Musique. Help, I need somebody, help, not just anybody. You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a gentle mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Et oui, même les Beatles ont parfois besoin d'aide. Preuve en est que nous avons tous besoin d'aide. Nous sommes donc toujours dans la lorgnette. Nous parlons du statut et du phénomène général des aidants et des aidantes. On en parlait donc avec mes invités. Est-ce que la non-professionnalisation de ces aidants est un problème ou un avantage? Comment on forme les aidants? Par quel passage? Alors, j'imagine à la fois, on en parlait déjà un petit peu, un accompagnement psychologique, mais aussi j'imagine un accompagnement technique à des gestes, à des positions de travail, etc. Comment tout ça s'organise, se met en place et avec quelle finalité? Christelle?
Je dirais que ça dépend vraiment des aidants. Il y a surtout dans les maladies neurodégénératives. Mm-hmm. Donc ça va être plutôt au niveau cognitif qu'il y a des atteintes. Donc moins motrices, donc il y a moins de gestes vraiment à pratiquer. Ça va être plutôt des attitudes qui doivent être apprises, voire développées, renforcées. Certains aidants n'ont pratiquement pas besoin, ils arrivent naturellement à s'adapter. Il y en a certains vraiment, ça se passe très bien. D'autres où c'est plus complexe. Parce qu'il faut prendre en compte que l'autre a d'autres besoins, mmh, qui ne correspondent pas automatiquement à soi. Ça demande une certaine vigilance un peu constante. Et ça, c'est pas toujours facile parce que c'est fatigant d'être toujours vigilant.
On en a déjà pas mal parlé. Ouais.
Et il y a aussi, notamment quand on est à l'extérieur, hein, quand on voit d'autres personnes, il y a aussi toute une attitude, qu'est-ce que l'autre va voir. Par exemple, prendre l'habitude de donner le bras à la personne aidée pour pouvoir les marcher. Et ben, dès qu'il y a des gens qui sont un peu là, qui regardent, ben, potentiellement enlever le bras, par exemple, parce que ben, on veut pas montrer que l'autre a besoin d'aide. Donc des fois, c'est le regard.
Le regard
de l'autre, que ce soit une personne lambda, inconnue, ou des membres de la famille aussi. Des fois, ça peut être aussi problématique, le regard de la famille, parce que des fois, les familles ne sont pas au courant. L'aider a décidé de ne pas donner l'information. Donc ça peut être aussi rendre difficile cette posture d'aidant. Donc ça va être vraiment une attitude, et nous, en tant que professionnels, on doit vraiment aller en douceur, aller au rythme de la personne. Elle va entendre des choses, elle va peut-être pas les mettre en place, ou plus tard. Nous, ce qui est vrai, que pour la plateforme de répit, comme nous, équipe EMA, on peut intervenir sur plusieurs années, selon les situations. Alors, plateforme de répit, beaucoup plus que nous, probablement. Mais des fois, d'une année à l'autre, il faut se dire, bon, ben, nous, en tant qu'équipe, on a fini d'intervenir sur l'année, on revient l'année prochaine, on va retravailler ça, et laisser le temps à la personne de faire son propre chemin, d'accepter.
Ouais.
Les aides, d'accepter de s'adapter.
Oui, Christelle, tu évoquais une vigilance. Il y a vraiment une adaptation aussi à faire auprès de chaque aidant. Effectivement, chaque aidant avance à son rythme, et ça prend souvent beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on va les suivre sur plusieurs années. Il y a des personnes qui vont se saisir tout de suite de l'aide. D'autres, il va leur falloir des mois. Certains vont se saisir du suivi psychologique, d'autres du répit aussi qu'on peut proposer au domicile. Donc c'est vraiment s'adapter à chaque aidant. Et par rapport à la formation et notamment à la gestion des troubles du comportement qu'on peut avoir chez ces personnes qui ont des troubles neurodégénératifs, effectivement, là encore, c'est une adaptation. Ce qui va correspondre un jour ne correspondra peut-être pas le lendemain. Mmh. Donc, c'est beaucoup d'essais, c'est beaucoup de propositions. Et justement, on a réalisé avec l'autre psychologue, il y a une autre psychologue qui intervient sur l'accueil de jour, un livret à destination des aidants pour leur apporter des petites astuces selon les troubles du comportement de la personne, si elle est agitée, si elle est désinhibée, voilà, pour pouvoir... tester des petites choses dans le quotidien.
Magali, oui, pour finir sur cette question.
Je pense qu'on est, sur le passage d'informations, l'acquisition de certaines notions, en étant prudent, parce qu'effectivement, chaque aidant a ses limites. Effectivement, il faut savoir s'il est prêt ou pas, entre guillemets, à entendre. En même temps, il y a une concurrence tout à fait hors norme qui s'appelle Internet, où on a des gens qui vont chercher aussi beaucoup, beaucoup d'informations, qui voient des forums. Quelquefois, ça peut
avec
être
à boire et à manger, on imagine, oui.
Extrêmement troublant, hein, parce qu'on a du coup, quelquefois, on rencontre des aidants qui ont beaucoup trop d'avance sur la situation en tant que telle qu'elle se présente et qui sont dans quelque chose de beaucoup plus péjoratif et qui ne prennent même plus le temps d'être avec le présent tel qu'il se fait et donc qui sont bloqués par certaines choses. Ceci étant, je pense qu'on est quand même d'accord, je pense, pour dire que le passage d'informations est essentiel pour éviter tout ce qui serait une déstabilisation et en avoir toujours un petit pas d'avance sur ce qui va pouvoir peut-être se passer dans une manifestation un petit peu déstabilisante, pour dire « Ah oui, on m'en avait parlé, ah oui, alors là, je sais que peut-être il se passe ça ou ça. » Et du coup, le fait d'être averti, alors c'est pas devenir professionnel, mais c'est au moins être averti, parce qu'il peut y avoir des moments qui peuvent être quand même très troublants et qui ne sont bons ni pour les dents, ni pour l'aider, du coup. Donc c'est plutôt ça qui est aussi à... On fait beaucoup de passages d'informations.
Après, on rappelle aussi, enfin en tout cas, je suis très vigilante là-dessus, c'est de dire à l'aidant, ben, c'est tout à fait normal d'être fatigué, de crier, de pleurer. C'est tout à fait normal. Il y a des moments où on va mal réagir. Ben oui, ben, c'est comme
on
ça.
Et
c'est pas dramatique.
Voilà. Voilà. S'autoriser à avoir des émotions.
Voilà.
On va donner la parole à des personnes qui ne sont pas autour de cette table pour des raisons qu'on peut comprendre, qui sont les aidantes et les aidantes eux-mêmes. Voilà, se déplacer, se rendre disponible pour venir passer une heure en studio. Et ben, pour ces personnes-là, c'est compliqué, mais Clémentine a pu les rencontrer trois personnes, notamment au Salon des aidants à Blois il y a quelques semaines. Donc je vous propose d'écouter Josiane, Odile et Marie-Thérèse, donc rencontrées au Salon des aidants.
Alors Josiane, moi je suis aidante de mon mari qui a fait une rupture d'anévrisme il y a 13 ans, donc qui était hémiplégique, qui ne parlait plus, qui ne marchait plus. Aujourd'hui, bah, il marche, il parle quand même, mais... Il a besoin d'être aidé au quotidien pour s'habiller, pour la toilette. C'est un peu un enfant aussi. Hein. On m'avait dit qu'il n'y aura plus d'interdit parce que c'était frontal. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et c'est un peu, maintenant, j'ai plus un enfant qu'un mari.
Oui, bonjour. Je m'appelle Odile. Je suis aidante de mon mari qui a la maladie d'Alzheimer. Il est en GIR 1-2. Et par le fait, c'est plus un enfant que, voilà, qu'un mari aussi. Voilà. Très dur à vivre. Voilà.
Oui, moi, je suis Marie-Thérèse. Donc, je suis aidante de mon mari, René. Et lui, il est atteint d'une DFT, dégénérescence frontotemporale. Et donc, ça nous tombe dessus sans qu'on s'y attende. Et il faut gérer ça au quotidien. C'est le quotidien qui est le plus difficile.
Le terme aidant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et comment vous avez vu évoluer votre position d'aidante au fil des maladies de vos conjoints?
C'est très, très compliqué, parce qu'il faut tout leur faire, tout leur dire, ils ne se rappellent pas. Voilà. Pour nous, c'est prenant. Voilà. Et on n'a plus de vie, personnelle du moins.
Moi, ça a été, c'est pas venu au cours du temps comme des maladies Alzheimer, par exemple. Moi, ça a été le jour où ça lui est arrivé. Voilà, en plus, il voulait le mettre en EHPAD à 60 ans et 2 mois. Il a eu la chance que moi, je venais d'être mise en pré-retraite. Autrement, il n'aurait jamais pu revenir à la maison. Donc après, j'allais le voir tous les après-midi à l'hôpital. C'est un travail à deux, un travail d'équipe, parce qu'il ne nous donnait aucun espoir. Et comme je vous dis, aujourd'hui, il marche, il parle. On nous dit au bout de 3 mois, il récupérera plus, c'est faux. Il a récupéré pendant 8 ans, des petits bouts. Mais aujourd'hui, voilà, on est tous les deux. Même si on n'a plus de vie, comme dit Odile. Voilà, il est là, il profite de son petit-fils. On est à la maison, il n'est pas en EHPAD. Il faut faire avec.
Quand est-ce que vous avez pris conscience? Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier où vous avez pris conscience de votre rôle d'aidant?
Oui, quand ils font des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, qu'ils sont mis à faire de travers, toujours. Et bon, on en parle au docteur, et puis après, bah, naturellement, on va consulter un spécialiste, le docteur Mercier, et c'est là qu'on découvre que la maladie, elle est là, quoi. Et voilà, c'est terrible quand ça nous tombe dessus.
Et comment vous avez appris à vous connaître? Est-ce qu'il y a un réseau d'une association en particulier?
Oui, par le Café des aidants, qui est mis en place justement par le CIAS, le premier vendredi du mois. Donc on peut participer à ces cafés d'aidants, et c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un aidant pour comprendre un aidant. Et puis on a formé un petit groupe, on se revoit même en dehors du Café des aidants, et c'est un grand soutien.
Et qu'est-ce qui vous a fait participer au Café des aidants?
Moi, j'ai eu envie d'y participer, ben justement pour voir ce que ça pouvait apporter pour gérer tout ça, en fait. Hein. Il y a toujours un thème qui est abordé. Donc ça, par exemple, moi, ça m'a aidé au début parce que j'avais l'impression d'être privilégiée par rapport à ceux qui avaient des cas d'Alzheimer. Mon mari, c'est différent, c'est plus physique, même si c'est un enfant. Moi, je peux le laisser un peu tout seul. Et ben, je me disais, finalement, j'ai beaucoup de chance. En fait, c'est pas vraiment le mot, mais ça m'a aidé à relativiser, parce que tout s'est écroulé, moi, d'un seul coup. Hein. Ça doit être différent que quand c'est progressif. Hein, moi, voilà, oui, le matin, il était...
Voilà. Ça évolue tout le temps, voilà.
Dans ces cas-là, je crois que le fait de partager on va dire nos souffrances, tous nos soucis, nos problèmes, fait que ça les allège. Et puis on a l'impression que c'est partagé, quoi, parce qu'on est compris, on est écouté.
D'autres vivent la même chose. D'autres vivent la même chose, voilà.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un peu des idées reçues sur les aidants en France?
Moi, je dirais que aidant, et je parle pour moi, je me rendais vraiment pas compte avant. Bon, un aidant, parce que c'est vrai que dans ma famille, j'ai connu des gens qui avaient des grosses difficultés. Donc, en ce qui concerne mes beaux-parents, par exemple, je voyais mon beau-père s'occuper de ma belle-mère, mais bon, comme il ne se plaignait pas, on se rendait pas compte. Mais aujourd'hui que je suis aidante, je comprends beaucoup de choses que jamais j'aurais compris autrement. Jamais, jamais. Mais qu'il faut être 24 heures sur 24 attentif, parce que bon, il faut tout gérer, il faut tout penser, il faut tout calculer à l'avance, et ça, c'est prenant. Et tout décortiquer, c'est...
Et qu'est-ce qui vous fait garder la foi, entre guillemets, et ne pas vouloir, par exemple, vous parliez des EHPAD tout à l'heure, ne pas vouloir faire en sorte que votre conjoint aille dans une résidence, un EHPAD? Qu'est-ce qui vous fait ne pas lâcher?
Moi, il est inscrit en EHPAD. J'attends une place, parce que, voilà, c'est très dur à vivre, quoi. Et puis que je suis très fatiguée, je ne peux plus. Épuisée, même.
Quel âge vous avez, si je peux?
72 ans.
Déjà, il y a le coup. Le coup, moi, ça fait 13 ans. S'il avait été mis en EHPAD il y a 13 ans, j'aurais déjà vendu ma maison. Et on m'a dit, même une assistante sociale à Tours m'a dit, vous vendrez votre maison. Oui, j'irai sous les ponts. Vos enfants, ils paieront. Ça un jour de Noël, en plus, voilà. Hein. C'est un peu brutal, mais je pense qu'il y a ce problème-là. Lui, il ferait 13 ans, il serait dans un EHPAD, et puis moi, je serais toute seule à la maison. J'aurais plus de moyens, je ferais quoi? C'est pas une vraie solution, l'EHPAD, hein. Du tout.
Oui, alors l'EHPAD, moi j'y ai pensé aussi, mais je repousse toujours cette idée, quoi, parce que J'imagine pas finir qu'il finisse sa vie dans un EHPAD et puis moi rester là. Non. Après 56 ans de mariage, c'est pas. Ce serait une rupture douloureuse.
Vous êtes en soutien à quelqu'un d'autre, mais pour vous, en tant qu'aidant, vers qui vous pouvez trouver du soutien ?
Eh bien, on trouve du soutien près de sa famille. Moi, c'est ça. Et de l'entourage aussi. Et au sein des aidants, on s'aide entre nous aussi. On se serre les coudes, on se donne des tuyaux, des astuces. Et en un mot, on a formé une autre seconde famille.
Merci beaucoup, mesdames.
Il y a des choses à dire sur ce sujet. On est dans l'humain, là, hein, au plus près. Quelques réflexions, Yann.
Elles disent une chose très juste, ce sur quoi nous, on travaille, en fait. Elles disent, après l'écroulement, on n'a plus de vie. Et notre rôle à nous, c'est de faire en sorte qu'elles en aient encore. Parce que là, on est quand même, si on n'agit pas, si on ne nomme pas les choses, on tombe dans un domaine presque sacrificiel.
Mmh. Oui,
c'est-à-dire
on sent,
que là, on voit bien au moment où arrivent les choses, c'est le moment où non seulement il y a la retraite qui arrive souvent, et en même temps, il y a cette situation qui tombe parfois d'un coup. Hein, on l'entendait dans le témoignage. Et il y a... Il y a, je dirais, presque un conflit des temporalités où on s'attend à la retraite dans un couple à faire autre chose
que ce qu'on fait là,
libérer de la contrainte du travail, et où on se retrouve avec un second travail et avec ce qu'elle disait, des situations d'épuisement, avec dans certaines situations des aidants qui tombent à un moment plus malades que les aidés par épuisement.
On sent, hein, donc il y a le sentiment de lassitude, d'épuisement, et puis mine de rien quand même aussi ce sentiment d'entraide, notamment avec le café des aidants que vous mentionniez. On sent qu'il y a une solidarité entre ces personnes qui est assez incroyable, qu'il y a une force de vie quand même qui dépasse presque l'entendement, en fait. Hein. Le côté sacrificiel dont vous parliez, Yann, est présent. Effectivement, il faut qu'on dépasse nos propres problèmes, etc., pour aller plus loin et venir en aide à cette personne qui partage notre vie depuis 50, 56 ans, comme disait une des trois femmes.
Alors, je dirais que le plus difficile, et où peut-être on est un petit peu en amont quelquefois sur certaines situations avec la plateforme de répit, c'est que nous, on essaye de les faire aller vers, hein, les contacts, la marche en avant pour aller prendre le contact, de sortir de cet isolement dans lequel la maladie peut vous installer après le choc de l'annonce du diagnostic qui vous enferme, qui vous isole, puisqu'elles disent bien que ça leur tombe dessus.
Il y a,
hein, voilà,
y a des fois, il y a une dégénérescence progressive, donc...
Voilà.
La prise de conscience arrive progressivement, et puis des fois, la rupture d'anévrisme fait que...
Et
boum.
En même temps, il y a un effet de sidération, hein, qui se produit assez régulièrement quand les gens reviennent. On les a eu quelques fois, nous, quand ils appellent avec une prescription pour notre équipe. Ils nous appellent au retour de la consultation mémoire qui a fait l'annonce de diagnostic. On les a en pleurs au téléphone. Hein. Donc, et là, on a des personnes... Alors, c'était des âges moyens, mais on a quelquefois des personnes qui ont moins de 60 ans. Hein. On a des gens qui ont entre 50 et 52 ans. Donc là, c'est toute une autre dynamique, hein, qui est à considérer, puisque là, on est sur des statuts de type handicap. Il y avait des notions de travail. Il y a quelquefois des jeunes, plus jeunes enfants encore au domicile. Enfin, là, on aborde des thématiques vraiment compliquées, puisqu'en même temps, les structures d'accueil dans ce moment-là sont plus les mêmes que celles à qui on s'adresse pour les personnes de plus de 60 ans. Donc, ne pas rester seul est une grosse étape pour aller vers la recherche de solidarité, effectivement, avec les autres partenaires et qui peut être en soutien en dehors de cercle familial rapproché.
On a entendu trois femmes dans ce dossier. Je voudrais vous poser la question. Quel est le rapport, justement, entre les hommes et les femmes aidants et aidés ? Est-ce qu'il y a des statistiques ou en tout cas voilà, des données qu'on peut... produire sur s'il y a plus de femmes, voilà, peut-être selon les âges aussi, quels éléments vous pouvez nous donner ?
Il y a plus de femmes, effectivement, mais ça tend quand même
à s'équilibrer
ouais. avec notamment des enfants et des hommes, et de plus en plus jeunes aussi au niveau de leur âge.
Ouais, ok. Quels sont combien alors pardon quelle somme ça coûte les soins professionnels complémentaires à ce que font les aidants? Comment les familles peuvent gérer ça? Est-ce qu'il y a des aides sur quoi, sur quoi compter? Quelles sont les structures qui accompagnent financièrement ou autrement les aidants, les aidantes?
Alors sur ce qui est, on va dire l'ensemble de la constellation du maintien à domicile, dont fait partie la plateforme de répit, la maison d'accueil de jour, les services d'aide à domicile, les services de soins infirmiers. Tout ça est globalement financé via l'État, via l'ARS, via le département, avec des contributions sur aide à domicile ou soins infirmiers qui sont aussi notamment très liées à la question du quotient familial, etc. Globalement, on a, et ça on oublie de le dire, on a encore en France un système social qui permet de faire ça. Parce que si, comme dans d'autres pays, tous ces services-là étaient facturés au prix réel, il n'y aurait pas de service. Ou alors ça serait réservé uniquement au cadre supérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un principe, on garde aussi dans cet état d'esprit d'aide aux aidants, un principe universaliste. C'est important de le dire. C'est-à-dire que c'est universaliste, c'est-à-dire inconditionnel, entre guillemets. Même si... ce que disait une des femmes dans le témoignage sur la question d'un moment, il faut peut-être placer en EHPAD. Bah oui.
Aujourd'hui,
un EHPAD, ça a un coût. Un EHPAD, dès lors qu'on est vraiment sur des revenus extrêmement faibles, on peut avoir une prise en charge intégrale via l'aide sociale du département. Mais dès lors qu'on est propriétaire... on va demander à ce que la maison soit vendue ou que au moment de l'héritage la maison soit vendue. C'est-à-dire que symboliquement, et puis on a des couples aussi qui vivent sur une retraite, ça aussi on le dit pas, qui vivent sur une retraite, ça veut dire que basculer sur celui qui porte la retraite, le basculer en EHPAD, ça veut dire que ça fragilise économiquement l'autre personne qui ne pourrait plus rester dans sa maison, parce qu'une maison, c'est pas parce qu'elle est payée qu'elle ne coûte plus rien.
Et qui doit donc
c'est-à-dire qu'il y a une dimension
enfants,
économique qui est aussi importante. Il y a une double dimension, en fait, sur le retrait ou l'hésitation à basculer en structure. Il y a la question économique, qui est indiscutable, et puis il y a la question affective.
On l'entendait, on avait deux sons de cloche.
Il y a la question affective, c'est-à-dire qu'à un moment, comment, quand on vit depuis 50 ans, 55 ans avec une personne, comment on se résout, non seulement à la laisser seule, mais à se retrouver seule. Parce que là aussi, c'est important, à se retrouver seule. La maladie, elle impacte le système couple, souvent, mais elle impacte aussi l'ensemble du système familial. Si on a des enfants qui sont aidants de leurs parents, ça impacte leurs enfants, leurs conjoints. C'est-à-dire que il y a une forme de risque de contagion, en fait, où l'ensemble du système tombe parce que, justement, on ne peut pas s'appuyer sur le système d'aide à domicile, le soin, les répits, etc. Et c'est pour ça que c'est très important, dans l'esprit, en tout cas, que moi, je veux porter politiquement, qui est l'esprit de solidarité. C'est-à-dire, vous savez, la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est quoi ? La solidarité, c'est la traduction de la fraternité. C'est-à-dire qu'à un moment, comment est-ce qu'on reste solidaires les uns des autres pour éviter qu'un système tombe ? Et c'est ça l'enjeu. C'est pour ça aussi que le CIAS, les pouvoirs publics, mettent de l'argent, se mobilisent là-dessus, dans l'intérêt général.
Est-ce qu'ils en mettent assez ?
Alors, est-ce qu'ils en mettent assez ? Il y a un sujet démographique.
Ouais.
Il y a un sujet démographique, la fameuse cinquième branche, qui ne voit toujours pas le jour. Globalement, qu'est-ce qu'on observe ?
Est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est la cinquième
branche ?
Alors
la cinquième branche, c'est, on va dire, tout ce qui va toucher à la dépendance.
Ouais, d'accord.
Je résume vraiment très synthétiquement.
Ça marche.
Globalement, qu'est-ce qui se passe ? On assiste depuis, heureusement, très longtemps, à une évolution positive de l'espérance de vie. Mais il y a deux espérances de vie. Il y a l'espérance de vie en bonne santé... Et puis, il y a l'espérance de vie. C'est pas la même vie quand on a atteint la maladie d'Alzheimer que quand on n'est pas atteint de la maladie d'Alzheimer. Et donc, ce vieillissement de la population a un coût. La question de savoir, c'est est-ce que notre structure gouvernementale, étatique, notre nation, l'Europe, parce que l'Europe, sur le vieillissement, est confrontée à la même chose.
Bien sûr.
Est-ce qu'aujourd'hui, on considère que on doit avoir une action commune, publique, dans ce sens-là, ou est-ce qu'on laisse la dimension individuelle prendre la main ? C'est-à-dire qu'après tout...
Chacun se débrouille.
Chacun se débrouille. Les EHPAD, dans tous les pays, on n'a pas construit autant d'EHPAD qu'en France. Dans beaucoup de pays, on a laissé, entre guillemets, les solidarités familiales, comme on appelle ça pudiquement, hein, c'est-à-dire débrouillez-vous tout seul, gérer la situation. Donc, la question du vieillissement, elle est comment on considère, en tant que société, le vieillissement. Vous savez, moi, j'ai milité dans une association il y a très très longtemps, qui était à l'autre bout de la dimension temporelle. C'était l'association d'éducation populaire qui voulait promouvoir la place de l'enfant dans une société, que la place de l'enfant dans une société détermine finalement son degré de civilisation. Je crois aujourd'hui que la place des seniors et du vieillissement détermine aussi le regard qu'on a, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où on est dans un discours très consumériste, productiviste, utilitariste, hédoniste, et que ben, passé un certain âge, quand on est malade, on n'est pas très productif. Et que si à un moment il n'y a pas d'action, de réveil par rapport à ça, citoyen, on peut vite tomber dans une forme d'eugénisme. Voilà, laissons-les mourir et périr en silence. Et moi, je crois qu'on doit faire une place à toutes les personnes de la société, quel que soit leur âge. Et si on vit plus longtemps, c'est une excellente nouvelle. Faisons en sorte qu'on le vive dans de bonnes conditions.
Le regard associatif de l'ADMR sur le sujet des moyens mis en place, de l'évolution qu'il faut donner à cette question du vieillissement.
C'est sur le même principe, puisque c'est le respect du projet et de la demande de la personne. Et M. Boursin disait très bien tout à l'heure qu'effectivement, la plupart des personnes, c'est rester à la maison, rester dans son chez-soi.
Et du coup, il faudrait que les aidants puissent avoir le choix. On entend souvent... mon proche va finir en maison de retraite, en EHPAD, mais non, c'est pas une finalité. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir leur laisser aussi le choix, s'ils ont envie de rester au domicile jusqu'au bout, de pouvoir mettre en place des aides pour ça.
Alors, il y a l'évolution, hein, malgré tout, des pathologies qui reconnaissent sur la peu porter problème. Nous, on voit souvent dans les aboutissements, lorsque il y a déjà la journée à couvrir, alors on peut trouver des systèmes d'aide, on fait des relais professionnels et quelquefois sur un nombre d'heures d'intervention conséquent. Maintenant, les plans d'aide sont devenus des choses conséquentes, alors avec leur marge financière ou pas possible. En tout cas, il y a des propositions possibles. Par contre, quand on en vient aussi à avoir des problèmes nocturnes, c'est-à-dire qu'il y a aussi le problème la nuit. Là, le H24, effectivement, on est à un enjeu important. C'est là où on a sans doute encore des structures à inventer. On fait des accueils de jour. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des accueils de nuit, parce que quelquefois, c'est la nuit qui pose problème. Or, l'aidant, dans la journée, il a dû mener sa journée. Et lui, c'est la nuit qu'il a besoin de se reposer. Et de la même façon qu'on permet des répits de temps de jour, je pense qu'il y a des endroits où on fait du baluchonnage, c'est un petit peu différent, mais un vrai accueil de nuit qui fait que l'aidant, il sait qu'il peut se reposer et qu'il reprendra le cours de sa journée avec le retour de la personne qui a elle-même passé la nuit, qu'elle a eu à passer dans son hébergement à elle, et que du coup, ils peuvent se retrouver sur ce temps commun à nouveau en journée. Et je pense qu'on a encore des nouvelles choses à inventer parce que effectivement la maladie, c'est elle qui nous dit un petit peu ce qu'on aura à faire et à nous d'être créatifs par rapport à ça. Et le maintien à domicile est en tout cas la première chose que toutes les personnes, je pense, demande à conserver.
Est-ce que je lance une piste, je ne suis pas un spécialiste, l'institutionnalisation d'un temps partiel avec un revenu aidant est une idée, est-ce qu'elle se justifie, est-ce qu'elle engendrerait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait, je ne sais pas.
Yann, est-ce que le salarié, une action familiale, alors déjà c'est déjà possible sur certains aspects.
D'accord.
Mais je ne sais pas si le fond du sujet est là. Là où il y a un sujet, c'est notamment quand les personnes doivent renoncer à une activité professionnelle pour ça. Dans la majorité des cas aujourd'hui, c'est pas tout à fait la situation.
D'accord.
Moi je crois qu'aujourd'hui le sujet, il est plus sur en effet des expérimentations de structures différentes, l'accueil de nuit, parce que il faut qu'on tente des choses. Parce que pour pouvoir avoir des expressions différentes du répit, s'il n'y a pas de répit, il y a asphyxie de l'aidant. Voilà, c'est ça, je crois que c'est très important. Quelqu'un qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, qui n'a plus du tout, qui est...
qui n'a plus de temps pour elle.
Et puis qui vit aussi, un truc douloureux, parce que ça on ne le dit pas, mais qui vit aussi d'une certaine manière une forme de déchéance de son conjoint ou de sa conjointe. Voilà, et qu'à un moment, quand on entendait dans les témoignages, c'était terrible, mais c'était aussi la manière dont ils perçoivent les choses. J'ai des enfants, j'ai plus de mari, j'ai un enfant. Mmh. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même rapport qu'on a à l'autre quand on considère l'autre non plus comme son mari, son égal,
mais comme un enfant.
C'est-à-dire qu'il y a ce risque compréhensif de l'infantilisation de la situation qui crée, on l'a dit, des situations de colère, d'agressivité. Et puis, à la différence d'un enfant, généralement, les choses ne s'améliorent pas avec le temps. Et je crois que c'est important de poursuivre, mais en effet, des expérimentations sur des accueils temporaires de nuit, des partenariats avec des EHPAD, avec des résidences. On peut imaginer des choses de toute façon. Notre démographie européenne et française va nous imposer de la créativité sur ces domaines-là.
Et dernière question justement, à l'échelle du CIAS, est-ce qu'il y a des actions, des réflexions qui sont en cours et pour toujours améliorer, chercher à être toujours plus au plus près
des considérations ? Alors dans le champ large de ce sujet aidant, aider, maintien à domicile, situation... intermédiaire, on va dire, on augmente, par exemple, sur nos résidences autonomie, nos logements temporaires. Voilà. C'est tout simple, c'est qu'on a fléché des logements qui vont être pouvoir occupés temporairement. Je viens faire un séjour temporaire, ça me vient, ça me va pas, j'y vais, je reviens. C'est ce genre d'expérimentation-là qu'on fait. Mm-hmm. La plateforme de répit, c'est aussi une initiative du CIS il y a quelques années. La maison d'accueil de jour, il n'y a aucune obligation qu'un CIS porte ça. Mm-hmm. Vous voyez, par exemple, les obligations d'un CIS, en fait, c'est quasiment rien. Après, c'est des choix politiques qui sont mis en place. Mais moi, je ne ferme pas la porte à... tout comme on diversifie, entre guillemets, le public, on veut diversifier au sein de nos résidences autonomie, à la fois d'un côté sur de l'intergénérationnel, de l'autre côté sur de la post-op, de l'accueil de travailleurs handicapés retraités, de l'accueil temporaire. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une approche globale et puis on tente des choses. Vous voyez, par exemple, l'augmentation du nombre de logements temporaires, c'est une expérimentation. La post-op, c'est une expérimentation. Le projet d'intergénérationnel, c'est une expérimentation. Toute expérimentation a mérite d'être évaluée. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête. Mais au moins, il faut tenter. Donc, à l'avenir, est-ce qu'on va travailler, créer des synergies différentes avec des structures d'accueil médico-social et nos différents services? Pourquoi pas? Moi, aujourd'hui, je me laisse... Après, là aussi, on a déjà beaucoup de choses sur le feu. On a déjà beaucoup de choses. C'est le CIS, c'est 13 millions d'euros de budget, 230 salariés. C'est déjà beaucoup de choses. Et des choses qui marchent. Et l'expérimentation, je suis favorable, si ça ne déstabilise pas ce qui marche. Mmh.
Très bien. Allez, un dernier tour de table, si vous avez chacune quelque chose à rajouter.
Alors moi, je dirais qu'on a des missions qui sont formidables. Maintenant, ça demande, dans tout l'accompagnement des aidants familiaux, ça demande des professionnels aussi. Et en ce moment, on est en grand manque de professionnels. Ça, depuis la crise du Covid, et je crois que les différents médias nationaux et autres se sont fait le relais, mais c'est une vraie crise. Et là, on rajoute de la difficulté en ce moment à ces situations parce qu'on ne peut pas les servir comme on devrait pouvoir leur répondre. Et donc, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire et on ne peut pas répondre à leurs demandes, malheureusement, au sein des associatifs ou autres expressions d'accompagnement. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très difficile à vivre parce que du coup, on leur parle de faire l'expression de ce qu'ils ont à avoir besoin. Mmh. Et après, du coup, dans la traduction opérationnelle, il n'y a pas forcément le pendant à pouvoir faire les choses. Donc, c'est un gros problème.
Très bien, merci. Christelle ?
Non.
C'est bon ? Sandrine ?
Oui, effectivement, je rejoins les propos de Magali pour réaliser nos répits, puisque la plateforme organise aussi bien des répits de jour que de nuit. On a besoin effectivement de personnel humain. On conventionne également avec d'autres services d'aide à domicile. Et on est aussi directement impacté par cette question de carence de personnel. Donc voilà, si on veut pouvoir répondre au mieux, il faut encourager, voilà.
Et revaloriser les métiers, leur redonner vraiment le sens et la place telle que notre société, on a entendu, semble en avoir réellement besoin.
Merci donc Christelle Moore et Magali Péchard donc, pour l'équipe mobile Alzheimer de l'ADMR du Loir-et-Cher. Et puis aussi Sandrine Lelièvre et Yann Bourseguin, donc représentant le CIAS. C'était très enrichissant et passionnant. Merci à tous. C'est donc, comme toutes les semaines à 7h, le journal de bord de Nicolas Orgelet. Et puis juste après, sur notre antenne, c'est la recette liste de Christophe. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lorgnette. Merci à tous et à toutes.
Merci.
Journal de bord d'un élu local. C'est l'épisode 93, les jardins familiaux et partagés de Blois, avec notre invitée Françoise Becbédé. C'est parti.
Bonjour Nicolas. Ça va Nicolas ?
Ça va bien.
Je vois que tu te réveilles là. Là, on sent que ça va de mieux en mieux.
Ça va de mieux en mieux.
Ouais, ouais. Parce que t'as bu de l'eau. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Françoise Becbédé. Bonjour Françoise.
Bonjour Gaëlle.
T'es conseillère municipale à Blois, de la ville de Blois donc. Conseillère déléguée au jardin partagé et familiaux. Et également à l'alimentation collective.
Oui, c'est ça. Et je travaille avec Hélène Menoux, qui englobe du coup ma délégation.
D'accord. Eh bien, mais
et je suis à Blois naturellement.
Donc c'est le groupe d'élus dans lequel vous êtes tous les deux. Aujourd'hui, on va parler jardins partagés et jardins familiaux, n'est-ce pas Françoise ?
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux ?
Alors un jardin partagé, c'est un jardin fait ensemble. C'est-à-dire que tous les gens qui participent à ce jardin travaillent le jardin de manière collective, la totalité. Et souvent, il n'y a qu'une cabane, par exemple. Voilà. Il n'y a pas de clôture. Et le jardin familial, chacun a sa parcelle. Donc du coup, chacun est responsable de la culture de sa parcelle, en propre. Voilà, du coup, c'est la grande différence. La taille aussi, parce qu'en général, les jardins familiaux prennent beaucoup plus de place parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui y participent. Souvent, les jardins partagés, c'est quand même un peu petit par rapport. Hein. Voilà.
Ça touche le même public ? Est-ce qu'on touche le même public avec ces deux types de jardins ou est-ce que ça correspond aussi à deux sociologies un peu différentes ?
Oui, parce qu'il y a une histoire derrière les jardins familiaux, hein, parce qu'avant c'était les jardins ouvriers, et les jardins partagés viennent plutôt d'une envie de plus d'écologie. Plus se rapprocher, plus et tester des nouvelles formes d'agriculture, la permaculture, allez, on s'essaye aux lasagnes, aux buttes, etc. Et du coup, c'est des gens souvent plus jeunes, mais qui viennent avec plutôt un esprit d'expérimentation, de test, de voir comment ça marche, alors que le jardin familial, à l'origine, c'est plutôt je viens produire. C'est
productif.
Oui. Ouais.
Et donc nous, on a les deux sur la ville de Blois.
Ah, complètement, oui. Plus de jardins familiaux que de jardins partagés, parce que le jardin partagé, c'est assez récent, quoi. Mais on a les deux, oui. Deux associations de jardins familiaux, la BJF, l'association blaisoise des jardins familiaux, et l'association des jardins familiaux, les Acacias.
Et alors toi, ton rôle comme élu dans tout ça, tu es élu en charge des jardins familiaux et partagés. À quoi ça sert d'avoir un élu en charge des jardins ?
Ça sert à essayer d'appliquer une politique de gestion des jardins familiaux, notamment une gestion la plus écologique possible, parce que qui dit histoire, dit histoire aussi qu'on retrouve avec notre agriculture, soit traditionnelle, soit bio, et on a les mêmes... les mêmes difficultés à certaines pratiques, elles ne passent pas. par exemple, l'herbe. L'herbe, c'est à bannir d'un jardin pour certains, et d'autres, ben non, l'herbe, c'est bien, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc, la mauvaise herbe, et puis l'herbe, en général, pour un agriculteur, enfin, un jardinier familial un peu ancien, c'est la mauvaise herbe, toujours. Et pour les plus nouveaux, ben, ça peut, c'est plus intéressant.
Et l'eau, voilà, aussi, ça peut être un problème ?
L'eau, c'est un problème, mais il y a quand même eu 2-3 épisodes de sécheresse. Et ça, ça marque les esprits. Donc, il y a quand même de la récupération d'eau, beaucoup plus. Et y a la majorité, je dirais, des jardiniers font attention à l'eau. Après, il y en a toujours bon, voilà, quoi, qui ne le font pas, mais quand même. Il y a plus de paillage, par exemple, partout.
Okay.
Donc, ça, c'est intéressant.
Donc, toi, tu dis... Tu participes à faire évoluer les pratiques pour qu'elles soient un peu plus respectueuses, on va dire, du sol, du vivant, quoi.
Exactement.
Mais tous ces terrains-là appartiennent à la ville, ils sont mis à disposition ?
Alors, pas tous. Il y a la BJF qui a des jardins en propre, hein, mais on va quand même leur demander d'appliquer une charte pour... Enfin, pour qu'ils aillent vraiment vers ça, quoi.
C'est une charte de bon usage, un peu.
Exactement.
Qui est coécrit avec eux.
Non, là, on met les bases de ce que nous, au niveau politique de la culture des jardins, ce qu'on veut. Et après, on aura une phase de négociation, d'acceptabilité, etc., pour essayer de... Mais bon, heureusement, enfin, oui, heureusement, il y a des lois, donc il y a des choses incontournables. Donc, au moins, faire respecter la loi et peut-être aller plus loin. Et,
sur quoi, par exemple, la loi n'est pas toujours respectée ?
C'est très difficile de savoir si...
Ou...
Voilà, les produits phytosanitaires, on a quelques doutes sur leur utilisation dans les jardins familiaux. Donc voilà, ça c'est important pour...
Et donc là, c'est le président d'association, votre interlocuteur. Il y a une présidence d'association qui représente les différents jardiniers, ou c'est le où il y a un CA des jardins.
Alors je suis en contact avec les conseils d'administration, rarement en tête-à-tête avec un président. Parce que bon, c'est pas forcément intéressant
hein. CA, oui.
Donc c'est plus intéressant d'avoir plus d'interlocuteurs et du coup l'idée c'est de continuer de montrer que il faut faire autrement. Voilà, c'est important pour la qualité même des produits qu'ils mangent, quoi. Parce qu'ils mangent leur production.
On a beaucoup de parcelles, il y en a dans tous les quartiers ?
Il y en a dans tous les quartiers. Il y a dans les quartiers nord, bon, je vous donne, la liste n'est pas exhaustive, hein. Montesquieu, autour de la Pinsonnière. Il y a dans l'est, il y en a un, la rue du Cavalier. Au sud, il y en a au parc des Expos, un autre à la rue Jean Morvillier. Puis il y en a d'autres. Et à l'ouest, la Frileuse, avec celui qui est en face, là, dont je n'ai pas le nom. J'ai oublié le nom. Et voilà, du coup, oui, tous
donc
les quartiers sont...
Ça représente beaucoup d'habitants.
Ah oui, au niveau des parcelles, il y a à peu près 550 parcelles en jardins familiaux.
Ça 550
fait... Oui, 550.
Ah ouais.
Oui, oui.
Ok.
Et sachant que dans une parcelle, tu vas avoir une famille. Donc en termes d'habitants, ça veut dire que c'est plus de 1000, quoi.
Ah oui, non, ça représente une belle partie. Hein, de... Oui, oui, c'est un jardin, c'est une parcelle pour une famille, en gros, même si...
Là, on parle des jardins familiaux et au niveau des jardins partagés, du coup, il y en a combien ?
Alors, il y en a un à côté, enfin, en face du jeu de pommes, à côté de la Biocoop. Il y en a un au Métairie. Enfin, au Métairie, il y en a deux. Il y a une véritable association de jardins partagés et il y a une association d'étudiants, les 41 patates et associés qui ont aussi une parcelle qui partagent, mais on va dire que c'est plutôt une expérience, c'est plutôt un jardin étudiant, voilà, comme celui qui est le jardin du Coteau qui est derrière la chocolaterie, voilà, oui, l'INSA, École du paysage.
Donc, est-ce que tu peux nous dire historiquement comment ça se fait qu'on a autant de jardins familiaux ? De quoi c'est issu et pour toi, vers quoi ça va évoluer ?
Oui. Alors, c'est issu du fait que Blois était une ville industrielle. Enfin, elle est toujours d'ailleurs. Et du coup, il y a tout à quand, au 19e siècle, les jardins sont apparus, ouvriers. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont développés sur Blois. Et donc, il y a ça, c'est historique. Et puis, j'ai oublié le reste de ta question, figure-toi.
Non, c'était... voilà.
Ah oui, et vers quoi on
veut
aller...
Pourquoi on en développe autant et puis vers
quoi
on veut aller aujourd'hui ?
Parce que là, je vous ai parlé de la charte écologique, mais on aimerait arriver à faire un mixte entre jardins partagés et jardins familiaux. Enfin, je dis un mixte, il y en a qui vont bondir.
Il y a besoin des deux, quoi.
On a vu, fait la visite du jardin partagé à la Chaussée. C'est très intéressant. Chacun a une petite parcelle, enfin non, on va dire une bande hein, maintenant, hein, une bande. Il y a la cabane qui est complètement partagée. Du coup, ça fait moins d'empreintes au sol. Et du coup, il y a des gens qui s'entraident, qui viennent là, qui ont quand même leur petite production rien qu'à eux. Parce que c'est important des fois. Hein. Ouais. Mais il y a aussi du collectif parce que bah,
Il y a des espaces communs.
L'espace commun, il faut l'utiliser.
Et en même temps, chacun
il faut l'entretenir.
Pour, le plaisir de pouvoir s'approprier librement sa manière de faire, choisir ses légumes, venir en famille avec ses amis.
Exactement. Il y a aussi, du coup, ils ont choisi ensemble des fruitiers, pas des fruitiers, où on les met, etc.
Ah oui.
Parce qu'il y a tout un travail d'agencement d'un jardin. Et si chacun veut des fruitiers sur sa parcelle, bah, des fois, c'est un peu compliqué.
Et donc, pour que ça marche, il faut un travail d'animation un peu de tout ça.
Ah oui, bah là, on a rencontré les gens. Voilà, bah, ils ne se connaissaient pas tous. Ils sont tous. Il y a toujours quelqu'un dans le jardin, quoi.
Je te tendais une perche par rapport au fait qu'il y a une salariée qui t'appuie.
Ah oui, oh pardon. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Ah bah oui, parce que moi, toute seule, je fais rien. Hein. Franchement, vous savez, les politiques, ils parlent et puis voilà. Hein. Non, non, nous, on est là pour impulser. On est là pour essayer de mettre un vrai sens à ce qu'on fait. Mais la politique, la mise en place de cette politique-là, c'est grâce à Annelise de la Bruyère et Florie Millard, oui.
François cite Florie Millard et Annelise de la Bruyère comme si tout le monde les connaissait, donc je vous situe rapidement. Florie Millard, c'est la salariée en charge de la biodiversité qui a temps plein pour la ville et l'agglomération, et Annelise de la Bruyère, la salariée qui est en charge des jardins familiaux uniquement à mi-temps pour la ville de Blois.
Et je rajouterais que si des personnes, parce que là on est vraiment sur les jardins familiaux, mais si des personnes à Blois veulent fonder une association pour gérer des jardins familiaux ou des jardins partagés, mais qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous, parce qu'on a aussi cette volonté-là d'essayer d'accompagner de nouvelles émergences.
Donc il faut que je donne ton mail ?
Bah oui, bah, c'est pas compliqué.
Vas-y.
C'est Françoise sans la cédille, mon nom, attention, accrochez-vous, BEIGBEDER, @blois.fr.
Ok, super, génial. Ouais. Alors, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas.
À très bientôt.
Merci, Françoise.
Merci à toi.
Bah, je vous en prie.
À vous deux.
Moi, c'est Nico et c'est mon premier mandat.
Ton premier mandat de quoi ?
Je suis vice-président d'une agglomération et co-président d'un groupe écologiste à Blois.
Ah, moi, je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast.
Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité.
Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast à raison de 3 par mois. Les applis de podcast, c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast.
Et on est aussi sur la radio locale Studio Zef.
Agitateur de fréquence.
Dans l'émission La Lorgnette.
C'est 91.1, c'est ça ? FM.
Chaque jeudi.
À 17h.
Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao.
Ciao, merci. Ciao, ciao.